France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Daniel Pauly, professeur d'halieutique à l'Université de Colombie-Britannique au Canada.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
L'exploitation des océans pour les poissons et les invertébrés marins, deux produits sains et précieux, devrait être un secteur prospère, étant donné que les pêches de capture, contrairement à l'agriculture et à l'aquaculture, bénéficient de ressources qui n'ont pas eu besoin d'être semées. Pourtant, les pêches marines traversent une crise mondiale, principalement en raison des politiques d'accès libre et de la surcapitalisation induite par les subventions. On peut toutefois affirmer que la crise mondiale est principalement une crise économique ou de gouvernance, alors que la base de ressources mondiales elles-mêmes fluctuent naturellement. Contredisant cette version, nous montrons que les débarquements des pêcheries mondiales ont évolué au cours des 45 dernières années. Des grands poissons piscivores vers les petits invertébrés et les poissons planctivores, en particulier dans l'hémisphère nord. Cela pourrait impliquer des changements majeurs dans la structure des réseaux trophiques marins. Deux ensembles de données ont été utilisés. Le premier contient des estimations des niveaux trophiques pour 220 espèces ou groupes différents de poissons et d'invertébrés, couvrant toutes les catégories incluses dans les statistiques officielles de débarquement de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Et le deuxième ensemble de données comprend les statistiques mondiales de la FAO sur les débarquements de pêche pour les années 1950 à 1994. Pour toutes les zones marines, la tendance observée au cours des 45 dernières années a été une baisse du niveau trophique moyen des débarquements de pêche. Si cela continue comme ça, on pourrait se retrouver avec des dépotoirs marins dominés par du plancton. Bonjour Daniel Pauly.
Bonjour.
Vous avez reconnu ce texte ?
J'ai reconnu ça, on a publié ça en 98.
C'est ça.
98, c'était le fishing down, dans la descente vers des niveaux trophiques.
Première publication donc dans Science le 6 février. Et vous qui êtes biologiste marin, une référence scientifique mondiale sur la question des pêcheries, c'est vous qui avez dénoncé le désastre de la surpêche dans les océans du globe. Vous êtes né en France, Daniel Pauly, et pourtant vous restez largement méconnu dans notre pays, étrangement méconnu, en dehors des cercles océanographiques. C'est l'occasion donc cet après-midi dans la Terre au carré de mieux vous connaître et de revenir sur votre parcours. Quel parcours, comme on va le voir. Et votre histoire, Daniel Pauly, elle commence le 2 mai 1946 à Paris. Et voilà ce qu'on pouvait entendre ce jour-là dans les actualités françaises, donc le jour de votre naissance.
Marseille a acclamé la visite du président Félix Gouin qui, délaissant pour quelques heures ses lourdes charges de premier magistrat de la République, est venu saluer ses compatriotes de Marseille, d'Istres et d'Aix, et à travers eux, toute la Provence. En Italie, pour la première fois depuis 23 ans, le peuple a pu librement exprimer son opinion. Les femmes italiennes ont en grand nombre usé de leur droit de vote tout neuf. Le Luxembourg, naguère asile du Sénat, abrite aujourd'hui dans son salon Victor Hugo la conférence des cas qui devront assurer la paix européenne.
Ces hommes amphibies qui semblent échappés d'un roman de Wells ont simplement adapté l'équipement de guerre qui servait au coup de main sous-marin à une chasse plus pacifique. Seul le poisson-ci que guette le harpon peut trouver que ce pacifisme est relatif.
Voilà, ça c'est le jour de votre naissance, Daniel Pauly, 2 mai 1946. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous venez d'entendre ?
C'était une période difficile, surtout pour ma mère, parce qu'elle avait été expulsée de sa famille à Nancy par mon grand-père, qui était un collabo en fait, un homme de droite. Et il a bien toléré deux de ses filles qui ont eu des enfants avec des Allemands. Mais pas avec un soldat noir américain. Oui. Donc il l'a chassé et elle est venue ici chez une tante et je suis né.
Donc à Paris.
À Paris, dans le 10e. Ma mère, elle travaillait comme ouvrière dans une fabrique et elle me voyait qu'en fin de semaine. Et elle se promenait le long de la Seine avec moi. Dans une poussette, bien sûr. Elle a rencontré une famille suisse qui était venue ici parce qu'ils avaient une relation avec une sœur qui était à Paris, une famille donc de Suisse romande, et j'étais malade, j'avais des poumons, une infection, et ils l'ont proposé, je ne sais pas pourquoi en fait, enfin parce qu'ils avaient perdu un enfant, ils avaient perdu un fils, la famille suisse, ils lui ont proposé de me prendre pour quelques mois pour que je me remette. Et en fait, ils m'ont kidnappé parce qu'ils ne m'ont jamais rendu.
Oui, c'est
ça.
Et
ma mère, elle était tellement paumée dans sa pauvreté, dans son isolation, qu'elle n'a pas pu me récupérer.
Ouais, ça a duré 15 ans, en fait.
Ça oui, pendant longtemps, parce que d'abord, j'étais en remplacement pour l'enfant qu'ils avaient perdu, mais ensuite, ils m'ont très vite transformé en domestique. Alors, j'ai vécu chez une sorte de Thénardier.
La famille Thénardier de Suisse, Jura suisse.
Hein. Du Jura suisse. Et évidemment, il y a eu l'école où ça s'est bien passé, mais j'ai dû quitter la Suisse à 17 ans. J'ai quitté la Suisse et l'école, et je suis allé en Allemagne.
Donc, vous étiez le domestique de cette famille, en réalité.
Oui,
hein.
En fait, oui.
Vous avez reçu des coups, des insultes racistes. Qu'est-ce qui vous a fait tenir, vous, dans ce contexte particulier ?
Être différent. Parce que je faisais clairement pas partie de la famille. Ils me le disaient tout le temps. Ils me disaient que j'avais à être reconnaissant, que je devais être reconnaissant, que autrement, sans eux, je serais dans la misère à Paris, je sais pas. Et donc, ils ont toujours insisté sur le fait que je suis un autre, que je viens d'ailleurs.
Mais c'était quoi votre différence ?
C'était ma couleur, bien sûr, parce que je vis dans une ville où il y avait la seule personne de couleur. Alors, j'étais montré partout, tout le monde me connaissait, en fait. Tout le monde me connaissait dans toute la ville. Et si je me comportais mal, il y avait tous les voisins qui me repéraient tout de suite, parce que si je lançais des cailloux quelque part, ou faisais des bêtises de gamin, on savait toujours que c'était moi, parce que j'étais le seul gamin différent.
Ouais.
Et donc, c'est cette différence qui m'a poussé à ne pas les imiter. Donc, tout ce qu'ils faisaient, je ne le faisais pas. Ils buvaient de l'alcool, je ne bois jamais d'alcool. Ils fumaient, je ne fume pas. Ils prennent de la drogue. Et donc, ça m'a aidé, en quelque sorte. En plus, j'ai eu, comme dans les contes, une fée, une bonne fée. Il y a toujours une mauvaise fée qui détermine une partie de votre vie, mais une bonne fée qui mitige, en fait, les faits. Alors, j'ai une bonne fée elle était vendeuse dans un magasin, dans le Migros, et elle m'a permis de venir une fois par mois dans sa famille.
Elle s'appelait Marguerite.
Il s'appelait les Rognon, la famille Rognon.
Marguerite Rognon, non.
Marguerite Rognon. Et ça m'a permis d'avoir une vue d'une vie normale. D'un enfant qui a une vie normale. Et ça m'a sauvé. En fait, je continue à être maltraité, de continuer à les ennuis, mais je savais qu'il y avait un autre monde.
Ouais, donc une fois par mois, vous alliez chez celle qui est devenue votre marraine, hein, en réalité.
Oui, c'était ma marraine.
Marguerite, qui vous lavait de la tête aux pieds.
Oui.
Parce que vous étiez dans un état épouvantable.
Oui. Et voilà. Et donc, en fait, quand ma biographie a été écrite et que mes camarades de classe ont parlé à l'auteur, ils ont mentionné des trucs que je ne savais pas moi-même.
Ouais.
La façon dont j'étais habillé ou mal habillé et autres.
Ouais. Et c'est avec Marguerite que vous découvrez la mer aussi pour la première fois ?
Oui, en Espagne, parce qu'elle m'a pris à Tarragone. Elle a épousé un Espagnol, un Catalan, et c'est là que j'ai vu la mer. Mais je dois dire, j'en garde pas une impression très forte.
C'est vrai.
Par contre, une course de taureaux, une corrida, où ils ont tué une demi-douzaine de taureaux, là, j'ai encore peur quand j'y pense.
Pendant toutes ces années, donc, vous aviez perdu la trace de votre maman, c'est ça, hein ?
Non seulement perdu, mais il ne répondait pas à mes attentes. J'ai demandé, par exemple, est-ce que les services sociaux, quand j'avais 15-16 ans, et j'ai écrit aux services sociaux, ils ne l'ont pas trouvé.
Ouais.
Et c'est bizarre, parce que plus tard, quand l'armée avait besoin de Daniel Pauly, ils l'ont trouvé facilement. Et donc, ce n'était pas difficile, mais le gamin qui avait besoin de ses parents, ils ne l'ont pas trouvé.
Vous aviez quel âge quand vous avez retrouvé votre mère ?
19 ans.
19 ans ?
Mmh.
Et donc, elle était en France encore ?
Pardon ?
Votre maman était encore en France ?
Oui, à Maison Alfort.
Oui, toujours, oui.
Donc, j'ai acquis une famille immédiate. Mes sept frères et sœurs, demi-frères et sœurs, sont je me suis intégré à ma famille. Ouais. Et je dois dire que, disons, ma sœur aînée, qui vient juste après moi, elle a eu un peu de peine à s'adapter au fait qu'elle n'était plus la maîtresse de la maison, quoi, pour ainsi dire. Mais tous les autres se sont bien adaptés à avoir ce grand frère qui avait des idées bizarres, qui leur ouvrait un monde différent aussi.
Ouais. Et Polly, ce nom de Polly, alors il vient...
Alors c'est Louis Polly, il a épousé ma mère... Un an peut-être après que je sois parti. Et il m'a reconnu. Et j'ai beaucoup admiré ça, parce que on lui a demandé, mais vous avez cet enfant, une noire, j'aurais pu avoir, il a dit, j'aurais pu avoir une amie de la Guadeloupe.
Ouais.
Et il était ouvrier à Trefimetto. C'était une boîte qui faisait un bruit infernal. Alors il rentrait le soir, il était à moitié sourd parce qu'il y avait du bruit toute la journée. Il était plutôt petit et il était passif, mais il était aimable. Et je l'ai respecté parce qu'il m'a donné son nom, parce que je m'appelais Clément avant, jusqu'à 3 ans. Et il m'a reconnu sans m'avoir jamais vu.
Daniel Polly, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes parti en Allemagne, vous parvenez à échapper finalement. Hein. C'est presque une fugue, cette famille Thénardier, donc, du Jura suisse. En Allemagne, vous êtes ouvrier manœuvre dans la journée, donc vous respirez des produits chimiques dans une usine de peinture. Et le soir, pour obtenir le bac, vous passez des cours, parce que vous avez déjà cette conscience qu'il faut faire des études, il faut travailler pour s'en sortir.
Pour s'en sortir.
C'est ça ce qui vous motive.
Avant de travailler, d'être manœuvre et d'aller à l'école, j'ai passé un an dans une œuvre sociale de l'église protestante, parce que j'avais des illusions religieuses, comme tout le monde.
Ce qui est plus le cas maintenant ?
Non, ça a passé, ça a vite passé. Mais j'ai passé un an quand même dans un asile, 6 mois dans un asile, et où j'avais un groupe de 20 enfants troublés, et je me suis occupé d'eux, c'est bien utile, parce que ça a ouvert un horizon sur des choses qu'on ne voit pas.
Mais comment on arrive à 17 ans à décider d'abord de partir seul, dans une nouvelle aventure, dans un pays qu'on ne connaît pas?
Un pasteur qui m'a orienté sur l'Allemagne, sur cette année, ça s'appelle année diaconique, qu'on fait pour l'église protestante. Et je voulais, à l'époque, je croyais que j'allais devenir interprète, traducteur. Donc, j'allais apprendre l'allemand, ensuite apprendre l'anglais, je reviendrai en Suisse. C'était l'idée, c'était une idée, c'est pas très mûre, mais enfin.
Ouais.
Et pendant que j'étais, après l'asile de 6 mois, j'ai travaillé dans un hôpital. Et là, le dimanche, il y avait des volontaires qui venaient, des écoliers, des étudiants, et je les écoutais, et je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas, moi, à l'école? Alors, il y a un lycée du soir, il y avait, dans la ville où j'habitais, c'était Barmen, c'était la ville de Engels, c'était la ville où Engels, le copain de Karl Marx, vivait, et je suis allé donc à Wuppertal, Barmen. Je suis allé au cours du soir, j'ai demandé au directeur s'il pouvait accepter ce français qui parlait l'allemand, juste à commencer à aller bien. Et il a dit bien sûr, parce qu'il savait très bien que la plupart abandonnent. De toute façon, on était 115 au début, c'est un cours de 4 ans, et on était 15 quand on a fini.
Ouais, donc vous avez tenu le coup pendant 4 ans. Vous avez été vraiment tenace.
En fait, c'était 5 ans, parce que c'était interrompu. Ouais. Parce que j'ai dû quitter après 2 ans pour venir en France pour faire mon service militaire. Parce que c'est eux qui m'ont mis en contact avec ma famille. Et ça a duré une semaine, le service militaire, heureusement.
Votre aventure océanique, au fond, elle arrive à quel moment, alors, dans tout ça, Daniel Polly?
Bon alors, ça a commencé
tard. Vous aviez une vocation spéciale pour la mer?
J'avais plutôt décidé de quitter l'Europe, parce qu'on me demandait toujours d'où je venais, et c'était désagréable. Alors, je vais quitter l'Europe, donc je vais apprendre quelque chose d'utile dans un pays du Sud. Donc, les années 60, c'était le monde était en effervescence, les jeunes voulaient changer le monde, n'est-ce pas? Moi, je voulais aussi changer le monde. Mais je me suis dit, c'est dans le tiers-monde que je vais vivre, pas en Europe. Alors, je vais apprendre quelque chose d'utile. Alors, je voulais apprendre l'agronomie. Alors, je suis dans la faculté d'agronomie, quand j'ai eu mon bac, je suis allé à la faculté d'agronomie.
Donc, en Allemagne?
En Allemagne. Donc, je parle, j'ai le bac à bachot allemand. Et je parle couramment. Et, Et c'était plein de nazis. Mais alors, ce n'est pas des nazis fictifs, des nazis... ce n'est pas un mot qu'on lance comme ça. C'est des vrais, des vieux nazis. Et l'école, la faculté d'agronomie était pourrie de nazisme. Et donc, j'ai quitté et je suis allé au département des pêches, l'océanographie.
Ouais.
Et j'ai trouvé là un environnement qui... Ça allait bien. Et
donc c'est grâce aux nazis que vous avez changé de voie, en fait. On peut se permettre de dire les choses comme ça.
Oui.
Hein, vous avez quitté l'agronomie, qui n'était vraiment pas fréquentable, pour vous engager dans l'océanographie.
Oui.
C'est comme ça, par hasard, finalement, que ça arrive dans votre vie. C'est incroyable.
Et j'ai eu un prof, c'est un prof qui était très puissant. C'était un bonhomme qui téléphonait au chancelier Schmidt, qui était son copain. Donc, pour vous montrer. Et il m'a pris sous sa protection, en quelque sorte, et j'ai pu vite faire un diplôme ça correspond au master. Très très vite, il m'a envoyé en Afrique, je voulais aller en Afrique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Voyez comme tout respire la paix ici. La mer, c'est la grande vérité. La mer est le vaste réservoir de la nature que je sillonne à ma guise. Avec un détachement apparent, le capitaine Nemo détenait la clé de l'avenir du monde. À mesure que je l'étudiais, je prenais conscience que cet homme étrange était habité par des forces gigantesques.
La mer, la grande vérité, extrait de 20 000 lieues sous les mers, film de Richard Fleischer en 1954, inspiré évidemment de Jules Verne. Daniel Poli, vous avez lu Jules Verne
bien
quand
sûr,
vous étiez petit. Est-ce que vous avez un petit côté capitaine Nemo vous-même? Est-ce que vous déployez des forces gigantesques? On a quand même le sentiment quand on regarde votre parcours. Hein.
Mais en fait, j'ai un parcours bizarre comme scientifique parce que si au début, au début de ma carrière, de mes études, j'ai travaillé sur le terrain, au Ghana,
ouais.
J'ai étudié une lagune côtière, qui maintenant a disparu.
Ouais.
Elle est couverte de broussailles et elle a disparu.
C'était quoi, un plan d'eau avec de la boue au fond et quelques palétuviers?
Oui, c'était un plan d'eau, il y avait de la pêche, il y avait une biodiversité incroyable, des poissons marins, des poissons d'eau douce, dans l'eau saumâtre, c'était incroyable. Et j'ai décrit ce système, l'année passée, j'étais au Ghana pour 3 mois, elle a disparu, cette lagune. Elle est morte.
Pour quelle raison ?
Il y a eu de la pollution qui a bouché le canal qui la relie à la mer, donc l'eau ne se renouvelait pas. Ensuite, il y a des laitues aquatiques qui l'ont couverte, et il n'y avait plus d'oxygène. Ensuite, les poissons sont morts. Et après, il y a eu une croissance d'arbres, d'arbustes, de brousses. Et la lagune a disparu, elle n'était pas profonde.
Ouais. Vous êtes jeune hein, quand vous partez au Ghana pour la première fois. Donc c'est 73, c'est votre premier terrain.
Oui.
Et visiblement, vous développez votre intérêt pour la compréhension des mécanismes qui structurent
Exactement.
Le vivant. Et ça, c'est la patte Daniel Poli qui ne va jamais changer, en fait.
Oui, hein. Ça n'a jamais changé, mais en fait, c'est devenu très théorique plutôt, parce que en Indonésie, j'ai travaillé dans un projet allemand qui introduisait le chalutage en Indonésie. Il faudrait y revenir, ça c'est un truc incroyable quand on y pense. Mais depuis mon doctorat, je travaille surtout, non pas en labo, non pas en terrain, mais sur la théorie. Et j'essaie de développer des méthodes en amont qui permettent aux chercheurs dans les pays du Sud de travailler. Parce que les concepts, les méthodes qu'on a développées en halieutique, elles sont adaptées aux poissons de la mer du Nord, de l'Atlantique Nord. Elles ne sont pas adaptées aux poissons tropicaux.
Donc votre travail, c'était de convertir en fait des données mathématiques ou statistiques pour mieux comprendre ce qui se passait sous l'eau et donner des informations concrètes sur l'état halieutique.
Exactement, parce que les collègues dans les régions tropicales, ils ne pouvaient pas travailler avec les poissons parce qu'on ne peut pas déterminer leur âge. Parce que l'âge des poissons, il est déterminé en lisant des os qu'ils ont dans la tête qui ont des anneaux, un peu comme les arbres.
Ouais, comme les cernes des arbres.
Oui, mais ces anneaux, ils sont créés par la différence entre l'hiver et l'été, la différence de température. Et en Indonésie, la différence est très faible, alors les anneaux ne sont pas formés.
Et pourquoi c'est important de connaître l'âge des poissons?
Parce que si si on les pêche trop fortement, l'âge diminue, l'âge moyen dans l'eau. Donc on peut, à partir de la composition en âge, la démographie des poissons, on peut en tirer l'état. Est-ce qu'ils sont surpêchés, est-ce qu'ils vont bien? Et on ne pouvait pas déterminer leur âge parce que, donc pas d'anneau. Alors j'ai développé des techniques. Parce que heureusement, c'était à l'époque où les premiers ordinateurs personnels étaient introduits. Et des techniques donc, qui utilisaient ces ordinateurs, qui permettaient d'utiliser des fréquences de taille. C'est-à-dire, on mesurait la longueur des poissons et à la place de mesurer leur âge. Et toute la théorie, je l'ai convertie, en quelque sorte, d'une structure sur les âges en structure sur les longueurs.
Et ça, c'est absolument fondamental quand on veut combattre le phénomène de la surpêche, par exemple, parce que ça donne de l'information scientifique aux pêcheurs.
Exactement.
Ce qui manquait aussi au moment où vous êtes en parlé dessus.
Pas tellement aux pêcheurs, mais aux gestionnaires, aux managers, ouais. Et au ministère des pêches et des différents pays. Et c'est ça qui a assuré ma carrière, en quelque sorte. Le fait qu'en amont, plutôt que gérer, m'occuper d'écrire une pêcherie ou l'autre, en amont, j'ai développé des méthodes généralisées que tous les chercheurs peuvent utiliser.
Daniel Poli, on va écouter la voix d'une océanographe française qui s'appelle Anita Conti dans un documentaire de TV5 Monde l'année dernière.
Aujourd'hui, on arrive à cette conclusion assez inquiétante que l'océan est vulnérable et que si vous faites des ponctions trop profondes, trop puissantes, trop importantes dans des masses animales, le renouvellement ne s'effectue pas. Alors, comme l'accroissement numérique accéléré de l'espèce humaine nous fait espérer qu'on tirera beaucoup d'aliments de l'océan, eh bien nous avons en même temps, après la recherche scientifique de ces 20 ou 30 dernières années, la certitude que l'océan ne peut pas répondre à nos espoirs si nous continuons à piller l'océan d'une manière sauvage.
Voilà une voix qui compte également dans l'océanographie, Anita Conti, documentaire donc qui a été diffusé l'année dernière. Le son lui précède de plusieurs années évidemment. Elle résume très bien les choses là aussi dans cet extrait.
Très bien, j'ai découvert Anita Conti il y a quelques années seulement, ouais. Parce qu'elle n'est pas très connue en dehors de la France.
Mais même en France, malheureusement, elle n'est pas très connue. Alors.
C'est vrai, mais c'était vraiment... elle était en avance de milliers d'autres chercheurs. En fait, ces quelques phrases font le sommaire d'une situation qui est maintenant très importante. À savoir, on pêche trop, la trop de pêche, et l'océan n'est pas aussi productif qu'il était avant. Surtout la pêche au chalut qui est pire que toute, parce que on prend des poissons, on détruit l'écosystème dans lequel...
C'est ça, ça racle, en fait. Il y a cet effet de racler les fonds et de tout embarquer sur son passage.
C'est comme si on chassait les chevreuils avec des tanks et des bulldozers. Mmh.
Dans les années 90, Daniel Poli, donc vous développez également une méthode d'évaluation des stocks pour créer une base de données. Ça aussi, ça n'avait jamais été fait. Vous commencez, je crois, sur des petites fiches Bristol.
Oui.
Et puis, évidemment, heureusement, l'informatique va vous aider quand même à aller un petit peu plus loin. Et ça aussi, ça a tout changé, parce qu'on arrive à évaluer, à répertorier, ne serait-ce que le nombre d'espèces de poissons, par exemple.
Exactement. Alors, ça s'appelle FishBase, donc ouais. Une base de données sur les poissons. Et j'ai eu l'idée de créer cette base de données parce que les collègues n'avaient pas accès à la littérature. Elle n'était pas disponible, il n'y avait pas d'Internet, même à l'époque, bien sûr. Et la littérature était enfermée dans des journaux scientifiques qui étaient bien trop chers pour les pays du Sud. Donc j'ai créé une base de données et au début on l'a distribuée avec des disquettes. On l'a distribuée comme ça. Et c'est devenu un énorme machin. Il y a 50 personnes qui travaillent à plein temps dessus aujourd'hui, tout le temps. 50 personnes, 25 aux Philippines et ailleurs. Et on a maintenant 35 000 espèces de poissons.
Répertoriées, donc.
Répertoriées, ouais. Décrites. Et en fait, on n'a plus besoin de voir les papiers dans lesquels leur biologie est décrite, parce que la base de données elle-même contient ça.
Donc c'est une grande encyclopédie.
C'est une encyclopédie, oui. Elle est utilisée par des millions de personnes. Ouais. C'est assez surprenant ce succès qu'on a eu avec
ça. Et pendant toute cette période, Daniel Poli, et dans tous les océans, vous posez finalement le même constat. Les écosystèmes marins sont en mauvais état et la pêche ponctionne dramatiquement en fait toutes les ressources. Est-ce que ces observations-là, elles vous donnent aussi envie d'aller plus loin, en tout cas de les transmettre différemment et d'être plus engagé sur ces questions? Et à quel moment ça intervient?
En fait, pendant longtemps, j'ai travaillé avec les gouvernements parce que je croyais, j'avais appris que les chercheurs travaillent pour les gouvernements et les gouvernements interviennent pour faire quelque chose. Je me suis rendu compte que dans les pays du tiers-monde, ça ne marche pas parce que les ministères ne sont pas équipés pour écouter les scientifiques. Et je suis allé au Canada et j'ai découvert exactement la même chose. Le Canada venait de détruire une ressource incroyable, et les ressources de morue, qui avait une pêcherie qui avait existé pendant 450 ans et qui avait été détruite en une trentaine d'années avec l'introduction du chalut d'Europe au Canada. Et là, il y avait pas de relation entre les gouvernements, les scientifiques et leur savoir. Aucune relation. Et plutôt, on les renvoyait quand ils s'exprimaient un peu trop.
Ouais.
Et c'est là que j'ai commencé à m'adresser aux ONG. Et donc, je suis devenu un chercheur qui se voit travailler pour les ONG.
Donc, c'est-à-dire que vous avez choisi de politiser, au fond, votre travail aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la voix scientifique ne suffisant plus, il fallait d'autres interlocuteurs, dont les ONG, par exemple, pour vous faire entendre et alerter sur tout ce que vous observiez.
Oui. En fait, je me suis demandé si les ONG... De quoi est-ce que les ONG ont besoin Alors, je vais faire au niveau scientifique, de faire dans un contexte scientifique, je vais faire ce qu'il ferait s'il pouvait faire de la science.
Ouais.
Et donc, je continue à publier des papiers scientifiques,
ouais.
c'est propre, c'est net, mais je fais surtout je pose surtout des questions et des questions qui intéressent les ONG. Ouais. C'est la recherche qu'ils feraient s'ils pouvaient.
Donc c'était la bataille de l'opinion publique, une façon aussi de faire pression sur les politiques précisément.
Exactement, c'est la seule façon que les scientifiques ont de faire pression sur les gouvernements, parce qu'en général, les scientifiques qui travaillent pour les gouvernements n'ont pas le droit de parole.
Ouais. Ça, c'est un moment où vous devenez professeur à Vancouver, hein,
oui.
À l'Université de Colombie-Britannique, donc en 1994. Et ce tournant-là, à la fois, il va vous apporter du soutien, parce que je crois qu'aux États-Unis, par exemple, vous êtes soutenu financièrement par des groupes de travail, mais aussi, il vous a valu d'être perçu différemment de la part de votre propre communauté, qui poser un regard sur vous, beaucoup plus distant. Pourquoi, à votre avis, vous gêniez en quoi?
Parce que, en fait, on peut dire que les Aléutes, purs et durs, c'est une sorte de secte. Ils utilisent certains langages, certaines choses qu'ils font ensemble. Et puis, quand on a des opinions différentes, si on dit, par exemple, vous savez, mon modèle, ils sont biaisés et ils sont trop optimistes. Quand on dit ça... dans les revues scientifiques, ils n'aiment pas. Alors, j'étais un peu isolé d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai un appui très fort de mon université. Donc, je peux dire n'importe quoi, on ne me fait rien, on me laisse tranquille. Et surtout, parce que je touche des fonds, l'université, ils aiment ça. À l'université, ils aiment ça, que je touche des fonds, donc ils me laissent tranquille. Et j'ai donc un appui très fort institutionnel.
Mais justement, on vous a reproché presque votre catastrophisme, en fait. Hein.
Oui.
À la fois d'être trop engagé et d'être un peu catastrophiste.
Oui, mais c'est naturel d'être catastrophiste quand on est Eliot, puisqu'on est en pleine catastrophe.
C'est ce qu'on voit tout le temps sous...
Le fait est que les gens s'attendent, quand on parle de l'halieutique, s'attendent, quand c'est que tout va s'écraser? Et quand on leur dit que c'est déjà fait, ils ne le croient pas. Mais en fait, regardez le thon rouge ou la morue, ce sont des stocks qui sont à 2, 3, 4% de ce qu'ils étaient il y a une centaine d'années. Donc le collapse a déjà eu lieu.
L'effondrement, il est déjà là.
Et voilà, il a déjà eu lieu. Et les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils n'utilisent que leur propre expérience comme source d'information. Or, les expériences qu'on a, elles sont trop courtes par rapport à un phénomène historique. Elles ne suffisent pas pour comprendre ces changements.
Daniel Pauly, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être scientifique sans être engagé?
Je trouve que c'est irresponsable d'être scientifique et de ne pas expliquer, au moins essayer d'expliquer au public ce qu'on fait, parce que si on ne fait pas, qui c'est qui va le faire? Et là, c'est là que les gens qui ont des, dans les réseaux sociaux, qui ont des opinions, mais qui n'ont aucun savoir, interviennent, et c'est pour ça que la, qu'il y a une dérive extraordinaire, aux États-Unis surtout, où les gens ne savent plus du tout ce qui se passe, et on leur ment tout le temps. Ils ont un gouvernement de menteurs, et ça devient dément.
France Inter. La Terre au carré.
Un filet, long de plusieurs centaines de mètres, traîné dans la Manche pour capturer du hareng. Une fois plein, ce boyau descend dans la mer et aspire directement le poisson, jusqu'à 400 tonnes en un seul jour. Ce qui interroge ces pêcheurs boulonnais, c'est que la présence des navires-usines dans la zone est parfaitement légale.
Allô ? Oui, Laetitia, Stéphane.
Ce jour-là, le maire d'Ambleteuse, lui-même ancien patron pêcheur, travaille avec l'association Bloom, spécialisée dans la protection des océans.
La présence de chalutiers géants indigne pêcheurs et écologistes.
Et ça, c'était en décembre dernier sur France 3, Hauts-de-France. Daniel Poli, vous qui êtes notre invité cet après-midi à l'occasion de votre passage en France et qui travaillait d'ailleurs beaucoup avec les ONG, vous l'avez dit, avec l'association Bloom en France. Claire Nouvian, que l'on retrouve tous les mois d'ailleurs dans l'émission pour parler des océans, association qui a obtenu des victoires très importantes dans le domaine de la surpêche, et cette question du chalutage en eau profonde et dans les aires marines protégées, c'est un sujet majeur aujourd'hui.
Oui.
Parce que là, ce qu'on vient d'entendre, c'est, oui, ça se passe dans des aires marines protégées.
Oui, c'est impensable, en fait, quand on y pense, c'est de la folie. Une aire marine protégée, on la protège contre quoi? Contre les Martiens? Non. Contre les bombes atomiques? Non, depuis... plus Chirac, il n'y a plus de bombes atomiques. Alors, contre quoi? Ça peut être que contre la pêche. Une aire marine protégée qui n'est pas protégée de la pêche, ou de ses excès au moins, ce n'est pas une aire marine protégée. Et d'ailleurs, dans le contexte légal en français, il n'y a pas de définition des aires marines protégées. C'est pour ça qu'on peut déclarer...
Enfin, il y a protégé quand même dans le nom.
Oui, il y a...
Donc on pourrait déjà avoir une piste intéressante.
Si on accepte qu'on peut pêcher au chalut dans une aire marine protégée, les chaluts, qu'est-ce que c'est? Ils ont été inventés pour augmenter la pêche de voiliers. C'était, à l'époque, c'était des voiliers qui les tiraient. Ensuite, l'invention de moteurs qui utilisaient l'énergie fossile, donc du charbon d'abord, et ensuite du pétrole, on tire des filets énormes. Et ces filets, ils correspondent... cette invention du chalut, en fait, c'est... Si on avait demandé aux scientifiques de développer une technique pour enlever les poissons de la mer... Bien, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient inventé le chalut. Et le chalut, donc, nous a venu d'une histoire, d'une longue histoire, ça a commencé au 14e siècle, mais il serait interdit si c'était une nouvelle méthode. Et l'idée d'utiliser un chalut, ça contredit donc l'idée complètement de la durabilité, parce que non seulement il attrape des poissons, n'importe quel poisson, tous les poissons qui sont donc sur le chemin du chalut, mais aussi il change les habitats, il change les écosystèmes. Et ça implique, c'est la négation de la durabilité.
Bloom qui a lancé sur son site internet un radar du chalutage. C'est pour voir ce qui se passe en temps réel dans les aires marines protégées à 5 mois du lancement de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Accueilli par la France, cet outil donc rend visible la destruction massive qui est occasionnée par le chalutage donc des écosystèmes, alors que cette pratique, elle devrait être totalement interdite aujourd'hui.
Oui, ben oui. En fait, la France, elle se trouve être le pays qui est le plus... qui s'engage pour le chalutage dans les aires marines protégées, au niveau européen, au niveau international. Et ça devient... C'est bizarre quand même, parce que les États-Unis, qu'on a l'habitude de critiquer, et pour cause, ils ont défini les aires marines protégées complètement différemment. Et ils ont des aires marines protégées exemplaires. Celles, surtout d'Hawaï, qu'ils ont complètement fermées au nord-ouest d'Hawaï. On peut voir... son succès de l'espace, des satellites, parce que les pêcheurs, ils sont le long de la limite, de la frontière de ces aires marines protégées, et parce qu'elles exportent du poisson.
Et ils ne la franchissent pas, cette frontière
hein. Non, ils ne, parce, qu'ils, parce qu'ils ont des bateaux qui interdisent d'y aller. Et donc, l'idée de, que des chalutiers puissent pénétrer une aire marine protégée, c'est les bras m'en tombent.
Ouais. Et puis alors, il y a quand même un enjeu climatique aussi, il faut le dire, parce que au passage, ces chalutiers avec leurs filets, ils anéantissent des puits de carbone qui sont ultra précieux aujourd'hui parce qu'ils emprisonnent justement le carbone dans les sédiments marins.
Et en plus, un engin de pêche que l'on déplace dans l'eau, que l'on tire dans l'eau, que l'on on utilise une quantité d'énergie énorme pour les tirer. Alors que les artisans, en général, ils ont des filets maillants, c'est des fixes, et donc c'est des poissons qui se déplacent.
Ouais. Donc la question de la pêche, c'est aussi celle du climat.
Ça serait bien que ce soit celle du climat, parce qu'on verrait là qu'on a des émissions de gaz à effet de serre par les bateaux, qui sont absolument superflus parce qu'on pourrait avoir un tiers des bateaux qu'on a, un quart, avec les mêmes prises. Parce qu'on a une surpêche. Et si on avait moins de bateaux, on pêcherait plus. Et tous les bateaux, ils n'auraient pas besoin de subventions parce qu'ils gagneraient beaucoup plus.
Et on protégerait les puits de carbone, ce qui n'est quand même pas un luxe a priori
oui,
aujourd'hui.
Bien sûr. Hein.
La question des subventions, ça c'est un sujet tabou auquel vous êtes attaqué, Daniel Poli. c'est un problème à l'échelle mondiale. Subventionner justement la pêcherie aujourd'hui, ça concerne la France bien sûr, par exemple, pas seulement la France. C'est un sujet auquel vous êtes attaqué.
Oui, je suis allé à Genève, à l'Organisation mondiale du... Et en fait... Les délégués, à part deux, trois pays, ils sont toujours d'accord, parce que c'est clair. En fait, les scientifiques, les économistes ultra-libéraux, ils sont aussi contre les subventions, parce que le marché est tout à fait biaisé. Donc les subventions, ça encourage la surpêche, parce que ça permet à des bateaux qui devraient se retirer de la pêche, ou de retirer d'un certain endroit, ça les encourage à rester. Moi, quand j'étais étudiant, on m'avait raconté que automatiquement, la pêche, elle va toujours se maintenir parce que les bateaux ne vont pas rester dans des coins où il n'y a pas de poissons, il n'y a plus de poissons. Eh bien non, les subventions vous permettent de rester et alors là, vous ne pêchez plus du poisson, vous pêchez des subventions. Et c'est ça que toutes les flottilles industrielles pêchent des subventions.
Et donc, la pêche artisanale, il faut quand même l'aider. Il faut la subventionner, justement, cette pêche.
Mais bien sûr, mais les subventions qui sont allouées en Europe, par exemple, elles vont 80% vers la grande pêche, vers la pêche industrielle.
Daniel Poli, un océan sans poissons, au rythme où on va aujourd'hui, où s'effondrent justement les ressources halieutiques, est-ce que c'est possible ou pas? Et à quelle échelle?
On a déjà. Voilà le problème. On se pose la question, quand c'est que ça va se passer? Mais en fait... En fait, éliminer les poissons, des poissons de mer en grande partie, c'est déjà fait. Mais on ne le voit pas parce qu'on a cette impression que ce qu'on voit, ce qu'on a vu, le changement qu'on a vu, c'est le seul qui compte. Or, la destruction des stocks de poissons, par exemple de morues, dont j'ai parlé avant, ça a déjà été fait dans les années 60. Et par exemple, les baleines, elles ont été détruites il y a une centaine d'années déjà. Donc, on ne voit plus de baleines, mais on ne s'attend pas à les voir. Alors,
il en reste un petit peu quand même.
Bon, c'est des quantités infimes par rapport à ce qu'il y avait avant. Et les jeunes vont, maintenant, ceux qui commencent leurs études, ils vont voir des abondances très limitées. Et ça va être leur base. S'ils vont juger la situation de la mer d'après ce qu'ils voient maintenant. Mais ce qu'ils voient maintenant, c'est rien du tout comparé à ce qu'il y avait une centaine d'années, il y a une centaine d'années.
Oui, parce qu'on a toujours considéré justement que l'océan était une corne d'abondance. Vous qui parlez d'abondance. Oui. C'était ça l'idée en fait. On n'a jamais pensé qu'on arriverait à épuiser ça. Donc on y est allé à fond les ballons, on continue toujours d'ailleurs.
Il n'y a aucun animal, aucune baleine, des harengs ou autre, qui peut résister à la puissance qu'on obtient quand on a du carburant fossile. Parce que avant, c'était le vent qui poussait où on ramait. Et donc un an de réserve énergétique qu'on avait, n'est-ce pas? Maintenant, quand on utilise des fossiles, des carburants fossiles, on a des millions d'années de puissance énergétique qu'on peut appliquer pour la guerre contre les poissons.
Daniel Poe, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est auditeur ou auditrice de La Terre au Carré et qu'on vous écoute? Est-ce que la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de manger du poisson comme on peut arrêter de manger de la viande ou pas?
Non, je pense que arrêter de manger du poisson, ça suffit pas. On peut le faire pour ne pas être en hypocrite, mais en fait, ça suffit pas on n'a pas aboli l'esclavage en cessant d'acheter des esclaves. C'est pas comme ça que ça se passe. Les changements climatiques, le tabagisme, il n'est pas arrêté parce que moi, je ne fume pas. Et il faut que l'État intervienne. Donc, il faut absolument qu'en plus des décisions personnelles, il faut qu'on s'engage dans une ONG, qu'on participe et surtout qu'on vote pour des délégués, pour des...
Des représentants.
Des représentants qui s'intéressent à cette matière.
La France, deuxième puissance marine mondiale, qui sera, on le rappelle, l'hôte de cette conférence internationale en juin. Donc il y a des enjeux majeurs qui, on peut l'espérer, vont être évoqués et qui pourraient faire avancer, en tout cas, la question. On verra ce qui se passe, en tout cas. Ce sera surveillé de très très près par les ONG en particulier. Il y a quelques jours, Donald Trump s'est attaqué à l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, une référence mondiale en matière de recherche scientifique, avec un objectif, évidemment, de réduire drastiquement le personnel de l'agence et de couper les budgets. Le Canada, où vous enseignez, entretient une relation particulière de longue date avec la NOAA. Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Poli?
Désespoir, peut-être En fait, déception. Les collègues de la NOAA sont les meilleurs. La NOAA a une politique de transparence, de collaboration internationale qui est exemplaire. Et la gestion des stocks, jusqu'à présent aux États-Unis, c'est la meilleure du monde. Et d'ailleurs, quand on me demande où est-ce que les choses se passent bien, je cite toujours l'exemple des États-Unis. Et c'est bizarre parce que les États-Unis, leur politique en général, c'est toujours des trucs bizarres. Par exemple, on peut se balader avec des mitraillettes dans la rue. Mais pour ce qui est de la pêche, c'est exemplaire. Et des aires marines protégées, c'est sérieux. C'est la reconstitution des stocks qui est épuisée, c'est sérieux et tout.
Sauf que là, tout ce travail scientifique, il est largement menacé. Hein.
Il est menacé. Les collègues n'ont plus le droit d'envoyer des courriels à leurs collègues à l'extérieur des États-Unis. Toutes les relations sont interdites. Des relations scientifiques. Et c'est tuer la science, bien sûr. Et
qu'est-ce que ça provoque chez vous comme sentiment?
Dégoût, colère, bien sûr. Mais on ne peut rien faire. On peut, tout au plus, on peut, si on a l'adresse privée de collègues, on peut leur promettre notre soutien personnellement.
Les cas, en tout cas, se multiplient, hein, effectivement, de coupes budgétaires et d'organisation au sein du personnel, avec un sentiment général de peur hein, chez les employés, par exemple, de la NOAA. C'est aussi la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans ce type d'agence aux États-Unis.
Oui, on avait un truc, une version moins sauvage au Canada, il y a une dizaine d'années, quand il y avait le gouvernement conservateur, et les scientifiques n'avaient pas le droit de parler à la presse. Et il leur fallait des commissaires politiques, comme en Union soviétique. Mais c'était pas si grave que maintenant. Ils veulent privatiser les services qui vous donnent le temps qui fait
la météorologie.
La météorologie. Ouais. Ils veulent privatiser la météorologie.
Ouais. Daniel Poli, après toutes ces années informées sur ces questions, quel bilan vous faites-vous de votre combat personnel sur cette question de la pêche hein?
J'ai fait ce que j'ai pu, mais ce que j'ai pu, c'était pas assez. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas mauvaise conscience. Mais c'était pas assez. Parce que on a développé, les scientifiques, on a développé des méthodes qui, si on les appliquait, pourraient être utilisées pour créer des pêcheries profitables et qui sont pas destructrices.
Il y a toute la littérature qu'il faut. Hein.
Oui, il y a toute la littérature qu'il 700, faut, il y a tout ce qu'il faut.
Plus de 700 publications de votre côté. Hein, donc il y a de quoi faire pour ceux qui s'intéressent à la question. Merci infiniment, Daniel Poli, d'être venu au micro de La Terre au Carré aujourd'hui. Je renvoie aussi sur cette biographie de David Grimillet qui vous concerne. Daniel Poli, un océan de combat et qui est publié chez Wild Project. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Et on termine l'émission comme tous les jours avec le répondeur et vos messages.
Bonjour, c'est Daisy de Sétroux en Haute-Savoie. J'ai été ravie d'apprendre hier sur la Terre au carré que la loi interdisant partiellement les PFAS a été votée en France. Et pourtant, quelle déception lorsque j'ai écouté les infos ce matin et que je n'ai absolument rien entendu à ce sujet. Ce genre de nouvelles doit faire la une des journaux. Pour rappeler que les partis verts et les écologistes ne sont pas des fous qui squattent les arbres, mais des gens qui s'impliquent réellement dans le bien-être de la nation et de la planète. Et donc, Mathieu Vidard, votre mission, si vous l'acceptez, est de veiller à ce que la nation soit bien informée sur ce qui est réellement important. Merci beaucoup Mathieu, à bientôt.
Bonjour Laurent, à Chuel dans le 45. Merci pour tous ces témoignages de gens qui s'engagent et qui obtiennent des victoires. Par contre, petite précision pourrait être utile. Est-ce que le Tefal, le produit Tefal qu'on va jeter et qu'on va boycotter, est-ce qu'il doit être déposé en déchetterie normalement comme un autre produit? Merci pour votre réponse. Bonne journée.
Bonjour Madeleine de Florent Nargonne. Je vous appelle au sujet de la personne qui a parlé des entraînements à la corrida aux arènes de vitesse. Il y a une pétition sur MCA, mobilisation cause animale, concernant cet entraînement. Au revoir.
Bonjour, c'est Alain de Vif en Isère. Eh bien, France Inter nous remet de nouveau cette publicité sur la viande de bœuf. On avait déjà dit plusieurs fois qu'on voulait plus entendre et malheureusement, ça revient comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'entende plus cette publicité? Bon, merci pour vos émissions. À bientôt, au revoir.
Oui, bonjour, Christophe des Cévennes. Je téléphone au sujet de la personne qui disait qu'en fait l'ONF fermait de plus en plus ses forêts à l'éco-pâturage. On va classer en fait en deux grosses catégories les forêts françaises, donc les forêts méditerranéennes qui ont besoin d'être débroussaillées contre les incendies de forêt, et en fait ben, le reste des forêts, les cervidés par exemple, les cerfs et les chevreuils ont besoin d'être régulés parce qu'ils mangent en priorité les repousses et les bourgeons. Et ce qui fait qu'il y a certaines forêts domaniales, notamment, qui n'arrivent plus à se régénérer. Et du coup, si vous mettez des troupeaux de brebis ou des chèvres dans ces forêts-là, ben, elles ne se régénèrent plus, la forêt. Bonne journée, au revoir.
Bonjour, c'est Emmanuel Delin. La région Auvergne-Rhône-Alpes a envoyé un courrier à tous les agriculteurs de la région pour leur demander, je cite, « de faire remonter toutes les situations UBS que vous rencontrez avec l'OSB ». Car au-delà de l'OSB, nous savons que d'autres organismes et de trop nombreuses normes vous pénalisent quotidiennement. La région propose aussi à ses agriculteurs de bénéficier d'une aide juridique en cas de litige avec l'OSB. Musk et sa politique d'épuration des services publics fait des émules en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci.
Et merci pour vos messages 01 56 40 45 45. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Valérie Ayestaraï, le dossier concocté par Anna Massardier, Julien Dumont à la technique et Vincent Samuel à la documentation INA.